Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Le magazine Le Point consacre régulièrement des numéros hors série sous-titrés Références et consacrés aux grands textes de l'histoire. Ce mois-ci, Le Point Référence est consacré aux grands mystiques. Catherine de Sienne, François d'Assise, Thérèse d'Avila, entre autres. Et avec Franck Ferrand cet après-midi sur Europe 1, nous allons nous intéresser à ces personnages hors du commun qui ont connu l'illumination et l'extase divine. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Attention, textes extrêmes, nous prévient dès l'édito, la rédactrice en chef de ce numéro hors série. Je cite Catherine Goliot, « Les croyants diront que les mystiques font la preuve de l'existence du divin. Les sceptiques, qu'ils sont hystériques, non sans s'émerveiller d'ailleurs de l'évidence de leur sincérité et des sommets de poésie et d'érotisme auxquels les porte cette supposée pathologie. » Les scientifiques, eux, ne cessent de chercher « Existerait-il dans le cerveau une partie dédiée à l'illumination divine ? La drogue peut-elle produire les mêmes effets ? Ces voyants, entre guillemets, n'ont-ils pas perçu des siècles avant les savants la fluidité des espaces ?» Eh bien voilà quelques-unes des questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans cette émission.
Et parmi tous les grands mystiques, vous avez choisi de nous parler plus particulièrement aujourd'hui de Thérèse de Lisieux.
Oui, Thérèse qui, avant Jeanne d'Arc, est une des saintes patronnes secondaires de la France, une personne bien modeste. On peut dire qu'elle est morte, vous savez, elle est morte en 1897 à l'âge de 24 ans. Elle était tout humble. On peut dire aussi qu'un siècle plus tard, Sainte Thérèse de Lisieux continue de déplacer les foules.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Les religions ont leur mystique, le judaïsme et l'islam comme l'hindouisme et le bouddhisme, mais il est vrai que la mystique vécue comme une union avec Dieu tient une place tout à fait singulière dans le christianisme et les mystiques auxquels nous faisons référence aujourd'hui, Maître Eckhart, Thérèse d'Avila, François de Sales, etc., sont des mystiques chrétiens. Parmi eux, j'ai choisi la plus effacée en apparence, la plus humble, si l'on peut dire, et en même temps l'une des plus révérées par notre époque, la petite Thérèse Martin, devenue Sainte Thérèse de Lisieux, en religion Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Considérée par Pie XI comme l'étoile de son pontificat, canonisée très vite, la canonisation intervient 28 ans seulement après la mort de Thérèse en 1897. Elle a été instituée au moment du centenaire en 1997, 33e docteur de l'Église par Jean-Paul II. On peut dire que cette petite orpheline d'Alençon, venue à Lisieux avec son père et ses sœurs après la mort de sa mère et entrée au Carmel dans le sillage de ses grandes sœurs, qui toutes étaient devenues religieuses, cette jeune nonne, morte de la tuberculose à l'âge de 24 ans, est un personnage majeur de la chrétienté. Aujourd'hui, la basilique de Lisieux est le deuxième lieu de pèlerinage en France après Lourdes. Les plus grands écrivains catholiques, vous savez, Claudel, Bernanos, Green et jusqu'à la chanteuse Édith Piaf qui affirmait avoir recouvré la vue grâce à elle, ont voué un culte à Thérèse. On fait voyager ses reliques. Quand je dis ses reliques, en vérité, on fait voyager son cercueil entier à travers le monde où les foules viennent adorer Sainte Thérèse. Plus de 1700 églises lui sont dédiées partout sur la planète et sa vision de la foi continue d'influencer personnellement des dizaines de millions de chrétiens. Je cite Olivier Swan dans la présentation qu'il fait de Thérèse pour le hors-série Textes fondamentaux. Elle est considérée, nous dit-il, comme la plus grande sainte de l'époque moderne. Entrée au Carmel de Lisieux dans le Calvados à l'âge de 15 ans, elle y meurt à l'âge de 24 ans. Après avoir laissé quelques écrits, ils furent ensuite réunis et publiés par sa supérieure dans le recueil « Histoire d'une âme », l'un des livres les plus vendus au monde et qui donna un souffle nouveau à la mystique. J'aimerais vous citer un extrait de ce texte ou de cette compilation de textes que représente « Histoire d'une âme ». C'est en l'occurrence au chapitre 10. J'ai toujours constaté, c'est Thérèse qui parle elle-même, lorsque je me suis comparé aux saints, qu'il y a entre eux et moi la même différence qui existe entre une montagne dont le sommet se perd dans les cieux et le grain de sable obscur foulé aux pieds des passants. Au lieu de me décourager, je me suis dit « Le bon Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables. Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. Me grandir, c'est impossible. Je dois me supporter tel que je suis avec toutes mes imperfections. Mais je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, bien courte. Une petite voie toute nouvelle. » Nous sommes, ajoute Sainte Thérèse, dans un siècle d'invention. Maintenant, ce n'est plus la peine de gravir les marches d'un escalier. Chez les riches, un ascenseur le remplace avantageusement. Moi, je voudrais aussi trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus, car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection. Alors, j'ai recherché dans les livres saints l'indication de l'ascenseur, objet de mon désir, et j'ai lu ces mots sortis de la bouche de la sagesse éternelle. Je cite « Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi ». C'est dans les Proverbes, chapitre 9, verset 4. « Alors je suis venu, devinant que j'avais trouvé ce que je cherchais, et voulant savoir, ô mon Dieu, ce que vous feriez au plus petit qui répondrait à votre appel. J'ai continué mes recherches, et voici ce que j'ai trouvé. Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein, et je vous balancerai sur mes genoux. » Ça c'est dans Isaïe, chapitre 66, versets 12 et 13. « Oh, jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses ne sont venues réjouir mon âme. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir. Au contraire, il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus. »
Un extrait sur Europe 1 de la messe solennelle de Sainte-Cécile, composée par Charles Gounod-Franck.
Alors, cette petite voie de Thérèse, quand je dis voie, c'est dans le sens de chemin, d'accès vers Dieu, cette petite voie bien quotidienne, bien concrète, faite d'accueil, d'amour, de charité, on peut dire qu'aujourd'hui, elle inspire, on peut dire qu'elle guide littéralement des millions et des millions d'âmes. Alors tout à l'heure, en compagnie de Catherine Riwa, nous allons revenir sur l'enfance de Thérèse à Alençon puis Lisieux, sur la mort de sa mère, sur la maladie qui à l'âge de 9-10 ans lui a fait perdre un moment la raison, sur l'exemple de ses sœurs, sur sa propre entrée au Carmel et sur la vie qu'elle y a menée, notamment sur la crise de la fin de sa vie aussi, hein, ces deux années de nuit de la foi, de nuit intérieure qui ont assombri un peu plus la maladie qui devait l'emporter si jeune. Mais avant ça, j'aimerais vous raconter à grands traits les événements qui ont favorisé sa vocation. Thérèse a 13 ans en 1886 et c'est la nuit de Noël. Son père, Louis Martin, l'a conduite à la messe de minuit avec sa sœur Céline, les autres filles sont déjà entrées en religion. Et de retour à la maison, Thérèse, très consciencieusement, place ses petits souliers devant la cheminée pour qu'on y dépose des cadeaux. Elle a 13 ans tout de même, c'est peut-être un peu puéril pour une jeune fille. Son père est agacé, il soupire, heureusement dit-il que c'est la dernière année. Et ça pour Thérèse, c'est un choc. Elle se met à pleurer, elle s'apitoie sur elle-même, et puis soudain, elle cesse de s'apitoyer sur ses malheurs, elle ressent la joie qu'il peut y avoir à s'effacer, à s'oublier soi-même pour faire plaisir. Je la cite « Je sentis la charité entrer dans mon cœur et depuis lors je fus heureuse », dit-elle. Elle appellera ça « la nuit de sa conversion ». Voyez, ce sont donc des tout petits événements, de rien du tout, hein. C'est un quotidien bien modeste. « Depuis cette nuit bénie, écrira-t-elle, je ne fus vaincue en aucun combat, mais au contraire, je marchais de victoire en victoire et commençais, pour ainsi dire, une course de géant. » Dès lors, la petite Thérèse, transformée, va s'épanouir. Elle communie souvent à l'église. Je sentais en mon cœur des élans inconnus jusqu'alors. Parfois, j'avais de véritables transports d'amour, écrira-t-elle. Elle prie beaucoup, et spécialement pour la conversion des pécheurs. Et c'est là qu'intervient l'affaire Pranzini. Une affaire que Thérèse a lue tout simplement dans le journal. Henri Pranzini, c'est un aventurier bourreau des cœurs, autrefois surnommé le chéri magnifique, et qui avait commis un triple crime particulièrement horrible. Il était naturellement condamné à mort et devait être exécuté à l'été 1887. Il faut se replacer dans le contexte de l'époque. L'opinion, la société sont particulièrement intraitables avec ce genre d'assassin, pour lequel on n'envisagerait pas un seul instant d'avoir ne serait-ce que de la compassion. Eh bien, Thérèse, elle, se met en tête d'obtenir la conversion de Pranzini. À distance, évidemment. La jeune fille multiplie les sacrifices, les contritions, les prières, évidemment. Elle espère de toute son âme un signe qui l'encouragerait sur la voie mystique qui désormais est la sienne. Or, on apprend qu'au moment de son exécution, Henri Pranzini, qui avait refusé de voir un prêtre, a fini au dernier moment par se retourner et par embrasser in extremis le crucifix qu'on lui tendait. C'est encore une petite chose, seulement pour Thérèse, il n'en faut pas davantage. Le récit dans le journal de la mort et de la conversion du jeune criminel la transporte, la conforte encore un peu plus dans sa vocation et plus tard, elle appellera Pranzini son premier enfant. À son tour et comme ses sœurs, elle veut entrer au Carmel, devenir religieuse, prier à longueur de journée pour le salut des pécheurs. Dans la théologie que plus tard va développer Thérèse, on peut dire que la place sera grande, immense même, la place de la miséricorde. Corde divine. La jeune fille est certaine que Dieu a pardonné aux criminels. Vous avez bien compris que Thérèse est encore jeune. À l'été 1887, elle n'a encore que 14 ans. Il n'empêche, en dépit de toutes les réticences de son père, qui voyait entrer l'une après l'autre toutes ses filles en religion, et malgré le veto de son oncle Isidore, son subrogé tuteur, un an plus tard, Thérèse fera son entrée au Carmel de Lisieux.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et nous vous retrouvons, Franck, avec vos invités sur Europe 1, François Gauvin, qui est docteur en philosophie, coordinateur adjoint du numéro hors série du Point Référence, Les Grands Mystiques, les textes fondamentaux, en kiosque actuellement, et Catherine Riwa, qui est écrivain, scénariste, universitaire et auteur de La Petite Princesse de Dieu aux Presses de la Renaissance.
Bonjour à vous deux. François Gauvin, vous avez donc coordonné tout ce travail. Vous avez choisi, contribué à choisir les textes qui sont présentés dans ce Point Référence. Nous verrons avec vous tout à l'heure que, quand même, Thérèse de Lisieux occupe une place un peu à part parmi tous ces grands mystiques.
Oui, tout à fait.
Elle n'est pas, on ne peut pas dire qu'elle soit symptomatique du mysticisme chrétien tel qu'il s'exprime depuis le Moyen-Âge.
C'est une version modeste de la mystique, sans exploit. Et comme vous l'avez très bien signifié, c'est une voix petite.
Très humble et qui finalement, évidemment, par ce côté justement très simple, parle au plus grand nombre, sans doute. Bonjour Catherine Riwa.
Bonjour.
Vous êtes en train, vous travaillez, vous avez déjà pas mal travaillé sur,
oui.
Sur le personnage et sur la vocation de Thérèse de Lisieux. Vous êtes en train de mettre la dernière main à La Petite Princesse de Dieu qui va sortir aux Presses de la Renaissance, là, incessamment, au tout début du mois de février. C'est un récit où vous faites parler Thérèse et où vous lui faites raconter tout le cheminement, encore une fois très simple, très naturel, qui va la conduire jusqu'à ses grandes extases et jusqu'à cette mystique. Au départ, on a envie de dire c'est une enfant modeste dans la famille modeste de cette fin de 19e siècle qui en a connu tant d'autres. Elle est née à Alençon en l'occurrence.
Oui, elle est née à Alençon. En même temps, il y a une détermination de la famille puisque ce que va faire Thérèse, c'est réaliser les désirs impossibles de ses parents. Puisque à la fois sa mère, Zélie, et son père, Louis Martin, avaient l'un comme l'autre souhaité entrer en religion. Et que pour des raisons diverses, ça n'a pas été possible, ni pour l'un ni pour l'autre. Ils se sont donc finalement mariés. Ça a été à la fois pour les parents un mariage arrangé, parce qu'on avait décidé de les présenter. Et en même temps, ils se sont reconnus. Ils s'étaient vus traversant un pont, l'un dans un sens, l'autre dans l'autre. Le pont, évidemment, synonyme du couple, etc.
Symbole absolu, oui.
Voilà, symbole absolu. Et Zélie, sa mère, la mère de Thérèse, a dit que lorsqu'elle avait vu ce jeune homme venir vers elle en sens inverse, elle avait entendu « Voici le fiancé que j'ai choisi pour toi ». Donc, si vous voulez, il y a déjà un grand mysticisme familial, même...
On est baigné dans un climat
voilà.
Très spécial.
On est baigné dans un climat très spécial, même avant la Révolution, il y a un prêtre qu'on cache un prêtre réfractaire dans la famille Martin. Il y a donc vraiment une, si vous voulez, il y a une détermination historique.
D'ailleurs, les sœurs de Thérèse seront elles-mêmes religieuses.
Voilà, donc ils vont y arriver, ils vont mettre plusieurs générations à arriver jusqu'à la sainteté, mais c'était le désir exprimé. On a une correspondance, par exemple, de Zélie, la mère assez abondante, c'était le désir exprimé des parents d'accéder à la sainteté, et ils y ont accédé à travers leur fille. Ça, c'est, je trouve, historiquement assez fascinant. De voir comment ces choses se passent. Et alors effectivement, Madame Martin Zélie va mourir quand Thérèse a 4 ans et demi, et laissant son mari, Louis Martin, avec toutes ses filles sur les bras, en quelque sorte, et elles entreront toutes en religion, toutes au Carmel, sauf Léonie. Hein, qui...
On peut dire que Thérèse est donc très petite quand meurt sa mère, quand meurt Zélie, elle a 4 ans et demi. Et pourtant, elle conserve de sa mère un souvenir extrêmement fort et prégnant, constamment, et elle s'adresse à elle.
Oui, alors je pense que Zélie Martin, enfin on le voit à travers sa correspondance familiale, avait un tempérament extrêmement fort et marqué.
Une sensibilité extrême aussi.
Une sensibilité extrême, c'était une femme malheureuse, elle était assez satisfaite de son mariage, elle réussissait, c'est une femme d'affaires pour l'époque, puisqu'elle a une petite fabrique de dentelles qui fonctionne très bien. Donc c'est surtout elle qui fait tourner le ménage, monsieur Martin est bijoutier, horloger bijoutier, c'est un petit peu un rêveur, il est perdu dans ses rêveries mystiques. Donc c'est la mère, en fait, qui est une femme, un personnage de femme très moderne, puisqu'elle réussit très bien dans son travail, son mariage est très satisfaisant, mais elle a eu une enfance très malheureuse, très austère. Alors ça, c'est des détails de l'époque. On lui a appris à lire dans la Bible, et pas dans n'importe quelle partie de la Bible, dans l'Apocalypse. Vous imaginez l'effet que ça peut faire sur une petite fille, la mère de Thérèse, d'apprendre à lire dans l'Apocalypse, qui est quand même un texte très effrayant, très difficile à comprendre et très effrayant. Donc elle a eu une enfance très dure, très malheureuse. Sa sœur, la sœur aînée de Zélie, entre en religion. Donc déjà, à cette génération-là, on a une entrée en religion. Et puis, Zélie va être très marquée par la perte de plusieurs enfants en bas âge. C'est quelque chose de tout à fait courant à cette époque, où beaucoup d'enfants meurent très tôt. Mais évidemment, elle est extrêmement sensible. Et puis, c'est pas pour ça que les gens étaient... C'est pas parce qu'il y avait beaucoup de morts de bébés que les gens n'aimaient pas leurs enfants. Et ensuite, également, la mort de parents. Et donc, lors des premières années, Thérèse, le souvenir principal qu'elle a, c'est que sa mère l'emmène au cimetière, où elle va visiter les petits anges, qui sont donc les enfants morts en bas âge, particulièrement les garçons,
les frères,
car aucun garçon ne survit dans la famille Martin, et puis aussi les grands-parents de Thérèse. Et la mère, en fait, peu à peu, il y a plus de gens qu'elle aime de l'autre côté, du côté de la mort, que du côté de la vie.
Ce qui fait qu'elle dira elle-même, Thérèse, qu'elle se sentait aimée au moins autant par l'au-delà par le monde terrestre, en fait.
Oui. Hein.
Ce qui, là encore, évidemment, va sans doute favoriser sa vocation. Elle tombe très malade, une maladie assez mystérieuse, lorsqu'elle a 9 ans.
Oui, alors elle va tomber très malade et effectivement on ne sait pas de quoi elle est malade. De toute façon, depuis la mort de la mère, elle a complètement changé. Elle devient, c'était une petite fille extrêmement coquette, aimant la vie, assez gourmande. Et puis elle devient, après la mort de sa mère, relativement anorexique et mutique. Elle ne parle plus. Bon.
Elle a été choquée psychologiquement.
Voilà, il y a un choc psychologique. Madame Martin meurt d'un cancer du sein. Elle est déjà, d'ailleurs, lorsqu'elle est enceinte de Thérèse, elle a déjà cela. À l'époque, ce sont des morts terribles, évidemment. Et ensuite, effectivement, il va y avoir cette maladie très grave. Les médecins ne savent pas ce que c'est. On pense que sa vie est en danger. Il y a une chose très intéressante, c'est qu'il y a un diagnostic d'un médecin qui dit: ce n'est pas de l'hystérie. Alors ça, c'est très intéressant. Parce qu'on,
c'est important même, historiquement. Là,
on est quand même à la grande époque de Charcot, où on parle beaucoup des hystériques, et où tout d'un coup, les choses vont basculer. C'est-à-dire que jusque-là, les mystiques sont dans les couvents, où on les admire, elles ont une place importante dans la société, même si on les cache, c'est elles-mêmes qui souhaitent cela. Et là, on va les cacher autrement, c'est qu'on va les enfermer dans les maisons de fous. Donc, si vous voulez, ça va basculer. Il y a un grand livre du psychiatre Pierre Janet qui s'appelle « De l'angoisse à l'extase », dans lequel il traite de ça. Et donc, elle arrive à cette charnière où on se dit, est-ce qu'on va se demander si ce n'est pas de la maladie, plutôt que, au contraire, l'accès à un autre monde, vous voyez ? Et donc, ce médecin dit, ce n'est pas l'hystérie. Parce qu'elle a certains symptôme qui ressemblerait à ceux de l'hystérie, qui est le symptôme en arc, hein, où elle ne touche le lit que du bout des pieds de la tête, par exemple. Donc,
et elle se cambre, en disant. Hein,
elle se cambre. Lit. Elle-même considère que c'est un moment de possession démoniaque. Donc, elle, le diagnostic qu'elle fait est un diagnostic chrétien, qui est celui que l'on fait avant la psychiatrie moderne qui commence à ce moment-là. Et donc, malgré tout, les médecins qui assez facilement disent d'une femme qui va pas très bien, c'est une hystérique à l'époque, hein, c'est très facile, le médecin dit ce n'est pas l'hystérie, c'est qu'il a le sentiment, il y a autre chose.
Nous allons revenir à la guérison de Thérèse et donc à la naissance de sa vocation dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et nous nous intéressons aujourd'hui sur Europe 1 à Thérèse de Lisieux, la fiancée de Dieu, Franck.
Et oui, la fiancée de Dieu, ça a été une des mystiques les plus récentes et en même temps, nous disions à l'instant, les plus humbles et modestes. Nous étions en train de parler avec Catherine Riwa des circonstances de la naissance de sa vocation. Comment va-t-elle sortir de cette maladie qui faisait que certains l'avaient condamnée ?
Oui. Eh bien, en fait, son père possède une statue de la Vierge qui lui a été donnée par une dame pieuse de la ville qui considérait déjà M. Martin comme un saint. Et cette statue est une... C'est la copie d'une statue baroque qui se trouve à Rome. Et la sœur de Thérèse, la sœur aînée Thérèse, a l'idée, c'est que Thérèse aime beaucoup cette statue. Et elle essaye de trouver quelque chose pour réconforter Thérèse. On apporte la statue dans la chambre de Thérèse. Donc, de son petit lit, on peut visiter cette chambre aujourd'hui.
Oui, on
visite à Lisieux, au Buissonnel, à la maison des Martins. Donc, on peut voir le petit lit, la statue en face du lit. Et Thérèse donc regarde cette statue, sa sœur est à genoux et prie au pied de la statue, elle prie la Vierge pour que Thérèse soit sauvée. Et à ce moment-là, Thérèse voit la statue lui sourire, ce qu'elle appellera le ravissant sourire de la Sainte Vierge. Et elle est persuadée que ce sourire s'adresse directement à elle et que par ce sourire, elle va être tirée de la mort. La Vierge est évidemment le personnage dans le monde chrétien de la maternité absolue. Thérèse a perdu sa mère. Depuis qu'elle a perdu sa mère, elle ne va pas bien. Et là,
elle retrouve une mère, mais alors aimante tellement plus encore.
Celle qu'on appelle la bonne mère, la mère des mères, et va par son sourire lui dire... Tu peux vivre. Et effectivement, elle va être guérie immédiatement, d'une façon stupéfiante. Elle est persuadée à ce moment-là qu'un signe lui a été envoyé, qui lui demande de vivre, car elle a une mission. Elle décide alors d'entrer au Carmel. Ça va être la première partie de la guérison. C'est la guérison physique, le sourire de la Vierge. Car lors de la fameuse nuit de Noël dont vous avez parlé tout à l'heure, elle appelle cette nuit de Noël, elle dit que lors de cette nuit de Noël, c'est passé ce qu'elle appelle sa conversion complète, car Thérèse est chrétienne depuis toujours. Elle parle de conversion complète, car elle a le sentiment que c'est lors de cette nuit de Noël, donc quelques années plus tard, alors qu'elle entre dans ce qu'on appellerait aujourd'hui l'adolescence, que c'est là que s'est produit, qu'elle a compris, qu'elle a rencontré Jésus.
Mais il faudra encore, et c'est pour ça que je parlais de Pranzini tout à l'heure, il faudra encore un signe extérieur supplémentaire pour qu'elle se sente appelée en quelque sorte, qu'elle se reconnaisse une sorte de mission. Parce que, et c'est ce qui fait que Thérèse de Lisieux a l'importance, évidemment, a acquis aujourd'hui l'importance qui est la sienne, c'est qu'elle va devenir théologienne en quelque sorte. Oui. En tout cas, elle va construire tout un discours, en fait, hein, qui est très important.
Qui est très important, et à l'époque, on ne s'en rend pas compte du tout. On pense que c'est une jeune fille presque retardée, si vous voulez. Bon, ça, c'est typique de ces saintes-là. Bernadette Soubirous, c'est pareil. Parce qu'elles sont dans un autre monde, elles ont un autre mode de raisonnement, elles ont une autre forme d'intelligence qui n'est pas forcément comprise. Et cette jeune fille qui a quand même suivi les études qu'on fait suivre à un pensionnat religieux, dans son milieu.
C'est légère.
C'est légère. Elle lit quand même beaucoup. Elle a un oncle pharmacien qui est journaliste aussi. C'est une famille relativement cultivée.
Le fameux oncle qui s'est pendant un temps opposé à son entrée au Carmel parce qu'elle est trop jeune, pensait-il.
Elle était trop jeune et que ça faisait scandale dans Lisieux, toutes ces filles Martin, puisqu'ils avaient déménagé sur Lisieux. Toutes ces filles Martin qui ne rêvaient que d'aller au Carmel, c'était quand même bizarre, sans compter le père qui passait son temps à aller en pèlerinage. Donc c'était très étrange. Mais elle a cette extraordinaire intelligence. Elle va se mettre à écrire lorsqu'elle sera entrée au Carmel. Elle rentre au Carmel sur dispense parce qu'elle est trop jeune, après être allée à Rome, se jeter aux pieds du pape de l'époque. Il fallait du courage pour le faire parce que elle n'est pas du tout censée faire ça. Elle entre donc très jeune au Carmel et là, comme elle n'arrive pas à parler car les carmélites doivent se confier à leur supérieur, la supérieure qui se trouve être une de ses sœurs sait qu'elle raconte très bien et a l'idée de la faire écrire. Et là, elle va écrire.
Ce sera donc l'histoire d'une âme. Hein.
Voilà. Et elle ne va plus arrêter d'écrire parce qu'en fait, il y a des volumes et des volumes. C'est une œuvre énorme et c'est une grande œuvre théologique.
Et c'est une œuvre théologique qui aujourd'hui encore est au cœur même de la foi d'énormément de monde. C'est un des livres les plus lus dans le monde. Ce qui est étonnant, c'est qu'on ait canonisé Sainte Thérèse très tôt, 28 ans après sa mort. Normalement, il faut un délai d'au moins un demi-siècle. Enfin là, tout ça a été très accéléré. Alors que François Gauvin, elle n'avait même pas accompli les miracles nécessaires, de son vivant en tout cas. On peut dire que l'intercession de Sainte Thérèse s'effectue par l'écrit et par le propos plus que par l'acte et par le miracle, hein, c'est ça ?
Voilà, c'est un exemple d'une écriture efficace. C'est-à-dire qu'il y a une dévotion énorme qui est suscitée par la publication de ses écrits et qui se propage et qui suscite donc une ferveur populaire très forte. Et là, on note des cas de miracles qui vont servir à alimenter son dossier de béatification et de canonisation. Donc effectivement, c'est extrêmement rapide. On compare souvent le cas de Jeanne d'Arc et celui de Thérèse de Lisieux. Donc Jeanne d'Arc a été canonisée
très très tard,
très, très tard dans les mêmes années que Thérèse de Lisieux. Mm-hmm. Voilà. Donc c'est une différence.
Est-ce que tout ça signifie que ça correspondait aussi à un message qui était celui de l'Église à l'époque ? Est-ce que finalement la forme de foi que prônait Thérèse s'apparentait à ce que l'Église voulait développer ?
Alors. C'est un peu compliqué.
Une sorte de charité au quotidien.
Voilà, c'était un message qui déjà avait été porté par des prédécesseurs comme François de Sales, par exemple. Mm-hmm. Cette idée que la sainteté est à portée de tous, d'une certaine manière. Mm-hmm. Et on a une image aussi de cette fin de 19e siècle où il se passe beaucoup de choses. Vous savez, à Paris, on construit la basilique du Sacré-Cœur. De Montmartre en réponse à la, vous savez, comme c'était considéré comme un péché de la France que d'avoir perdu contre l'Allemagne, en même temps on construit, ou à peu près en même temps on construit la Tour Eiffel. Donc il y a des tensions énormes entre une volonté de modernisme, une volonté d'imposer un ordre moral nouveau. Il y a aussi le processus de laïcisation des écoles avec Jules Ferry.
À la grande époque de la République maçonnique qui est anticléricale, hein, tout simplement.
Et voilà, voilà. Et là, curieusement, sans doute, l'Église voit la possibilité d'atteindre le plus grand nombre. Déjà, c'est fait, c'est-à-dire qu'elle arrive après que le plus grand nombre se soit tourné vers Thérèse de Lisieux. Et le message aussi est essentiel, c'est cette idée de petite voix à l'époque où on parle toujours de grandes choses. La Tour Eiffel, c'est haut. Mmh. C'est immense.
Sacré-Cœur, c'est imposant.
Voilà, on commence à parler du progrès de la technique. Et on commence aussi à avoir des problèmes, à se poser des questions sur la manière d'améliorer l'homme. Le génisme, vous voyez, la manière de transformer, de faire une sélection naturelle des hommes, c'est-à-dire d'encourager, de favoriser une meilleure sélection naturelle des hommes. C'est ces idées de Darwin qui sont là. Vous avez l'affaire Dreyfus avant que Thérèse de Lisieux ne meure.
Pleine idéologie du progrès, quoi, tout simplement.
Cette idée tout à fait du progrès, de la grandeur. Vous avez Nietzsche, en même temps que Thérèse de Lisieux écrit sa petite voix, Nietzsche parle de grosse politique, de grande politique. Cette politique donc qui permettrait une sélection des meilleurs. Il y a cette idée de surhomme. Vous voyez, on va toujours vers le plus haut. Et elle, tout d'un coup, dit, mais ce qui fait la beauté de la vie, c'est la richesse et la prolifération, tout ce qui est beau, les petites fleurs sont toutes jolies.
Au cœur de l'histoire.
Un nouvel extrait sur Europe 1 de la messe solennelle de Sainte Cécile de Charles Gounod, puisqu'aujourd'hui sur Europe 1, nous parlons de divin, d'extase, de mystique, de Sainte Thérèse de Lisieux, Franck.
Et oui, et en l'occurrence, après tous les grands mystiques tellement spectaculaires, si je puis dire, on en dira un mot évidemment dans un instant, Sainte Thérèse a l'air bien modeste. Rappelez-vous cet extrait que je lisais tout à l'heure de l'histoire d'une âme, hein, cette petite voix qui est la sienne. Est-ce que c'est un viatique qu'elle offre à ses contemporains, Catherine Riwa?
Alors oui, je pense que ça va énormément aider les gens, parce qu'il faut voir que quand on parle de petite voix, ce que
petite
dit Thérèse...
Petite voix dans le sens petit chemin, encore une fois, c'est pas la petite voix qui murmure.
Oui, ce que dit Thérèse, c'est que dans le plus grand se trouve dans le plus petit. Et à partir du moment de la nuit de Noël, où elle connaît ce qu'elle appelle sa conversion complète, elle va écrire qu'elle commence ce qu'elle appelle sa course de géant. Donc, attention, c'est pas que du rikiki, c'est que elle va beaucoup aider les gens en disant, si vous êtes rien, vous êtes humble, en fait, vous contenez le plus grand. Et c'est ça qui est extraordinaire. L'autre élément de cette théologie qui, je pense, parle énormément aux gens, c'est qu'elle va beaucoup simplifier la théologie de l'époque dans laquelle on va peser ce que vous avez fait de mal, ce que vous avez fait de bien. Et elle dit, mais... être chrétien, c'est juste accepter que l'amour de Jésus est à vous. C'est juste accepter que les bras de Jésus vous sont ouverts. Donc c'est une théologie extrêmement simple et par là même, apparemment...
Humilité, accueil, réception, oui, en quelque sorte d'amour.
Et puis la théologie de l'abandon à l'amour. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui me paraît extrêmement moderne.
Donc c'est par la lecture de ces textes qu'on est impressionné par Sainte Thérèse, en fait. Est-ce qu'on peut parler d'une bibliothérapie ?
Oui, moi je suis tout à fait, je suis convaincue par l'idée de bibliothérapie, je trouve qu'il y a des livres qui guérissent, et bon, sinon je ne sais pas si j'aurai le courage de continuer à écrire, mais bon, mais que les livres vous aident en tout cas, et certains peuvent vous guérir. Et donc c'est ce qui se passe, c'est ce qui m'a fait qu'au départ je me suis intéressée à Thérèse de Lisieux, c'est que c'est le miracle de l'écriture. Pour un écrivain c'est très impressionnant de se dire qu'il y a des gens qui en écrivant peuvent faire un effet aussi puissant sur les autres. Donc c'est là qu'elle est unique, comme vous le disiez tout à l'heure, puisque les miracles vont se produire de façon posthume et à travers ses écrits.
Est-ce que Thérèse s'inscrit, et là c'est plutôt à François Gauvin que je pose la question, est-ce que Thérèse s'inscrit dans une lignée? Est-ce qu'il y a d'autres mystiques qui, comme elle, prêchent l'extrême humilité, la simplicité finalement?
Ah oui, certainement. D'abord, il y a évidemment, on pense à François d'Assise, qui était pour elle un modèle. Mais justement, c'est un modèle qui permet aussi de marquer le contraste.
Alors François d'Assise, au XIIIe siècle.
Voilà, François d'Assise qui était riche, beau, intelligent, voilà, et qui décide de tout laisser, de vivre sans rien, de tout abandonner et de vivre une vie totalement modeste. Et la différence, c'est qu'il y a un côté encore, je dirais, si vous voulez, j'adore François d'Assise, mais il y a un côté spectaculaire encore dans ces événements. Alors que du côté de Thérèse de Lisieux, c'est tout en douceur, c'est encore une fois cette différence. Ensuite, pour ce qui est de ses écrits, elle s'inscrit aussi dans une démarche qui est, là, on peut dire, plutôt féminine. On a parlé souvent de mystique féminine, et il faut bien comprendre pourquoi. C'est dans le sens où les femmes n'avaient pas le droit de discuter de la Bible, de faire des sermons, n'avaient pas le droit de prendre la parole en public au nom de Jésus. Donc elles écrivaient comme ça des petits textes qui ont marqué énormément les gens. Donc elle s'inscrit dans cette tradition-là, comme Thérèse d'Avila aussi, qui est son modèle aussi.
Mais Thérèse d'Avila, c'est plus flamboyant, si je puis dire.
Exactement. Si on l'a cité dans ce numéro, Thérèse de Lisieux, c'est justement parce qu'elle contraste avec les autres, et il n'y a pas non plus chez elle d'avènement de choses spectaculaires comme des stigmates que reçoit François d'Assise, par exemple. Ou alors, elle ne pratique pas non plus une forme d'ascèse comme les pères du désert qui partaient comme des ermites, s'infligeant les pires atrocités, essayant de vivre de rien pour se confronter au diable et à la chair. Voilà, on essayait de lutter. D'ailleurs, ça vient de Saint Paul, si vous regardez dans la première lettre aux Corinthiens, vous avez cette idée que être un témoin du Christ, c'est être comme un athlète dans un stade. Il faut être le meilleur, quoi. Et donc, cette idée-là, elle est, c'est-à-dire va inspirer Thérèse de Lisieux, mais elle va la changer, elle va la voir autrement.
Il y a une autre mystique féminine portugaise, celle-là qui est quasiment contemporaine de Thérèse, c'est un petit peu plus tard, c'est Lucie de Fatima. Elle aussi se réfère constamment à la Vierge, il y a cette dimension mariale dans ces...
En effet, la dimension mariale a été très forte dans cette époque, donc du 19e, début 20e siècle, sans doute parce qu'on dit, vous savez, souvent on dit que le 19e siècle, c'était le siècle de fer, c'est la fonte, on construit, on bâtit. Et il y a aussi une morale bourgeoise, si vous voulez, qui s'impose. Et la figure de la Vierge apparaît comme tout en douceur. Et elle apparaît justement aussi à des jeunes feuilles, jeunes filles d'ailleurs de très humbles, qui des paysannes, et Lucie de Fatima fait partie de ces personnes très modestes qui ont une révélation, de Fatima avec des secrets qui
sont... Le point commun de tous ces grands mystiques dont vous avez donc fait une sorte de florilège là dans ce numéro du Point Référence, c'est l'amour. Le feu, la lumière, l'extase, enfin, ce sont quand même tous de grands amoureux. Alors amoureux divins, mais amoureux avant tout. Il y a un grand élan chez tous.
Oui, tout à fait. Ce qui permet aussi peut-être de contraster avec d'autres traditions. Si on parle de mystique bouddhiste, par exemple, on a l'idée de compassion, mais l'idée de feu dévorant, d'amour, de désir, tout ça, c'est effectivement très très fort du côté chrétien, mais ça commence déjà dans la Bible avec le Cantique des Cantiques. Vous avez là un poème avec des formules splendides, très érotiques, il faut bien l'avouer, et dans toute la tradition, donc cette forme d'érotisme, de relation érotique au sens noble du terme, je dirais, a été nourri, rediscuté. Et c'est le sens même du mot mystique. Le mot mystique veut dire, à l'origine, c'est le sens spirituel de ce qui est écrit. Voilà.
Catherine de Sienne, François d'Assise, Thérèse d'Avila, Maître Eckhart, les grands mystiques, les textes fondamentaux. C'est donc un numéro hors série du Point, dans la série Le Point Référence. Merci François Gauvin d'être venu nous en parler. La petite princesse de Dieu de Catherine Rivois sortira très bientôt au Prince de la Renaissance, au tout début du mois de février. Je sais que vous travaillez également aussi, Catherine Rivois, à un essai sur Sainte Thérèse de Lisieux.
Oui, en ce moment j'écris ça. J'essaye.
Elle vous guide, j'imagine.
Elle m'aide beaucoup, oui.
Vous pensez que les textes qu'elle a pu écrire sont aujourd'hui lisibles par des gens qui n'auraient pas la foi ?
Oui, puisque ça a été mon cas. Donc... Et je suis loin d'être la seule, oui, certainement. Mais de toute façon, avoir la foi, qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense que... Il y a des personnes qui sont en dehors de la religion et qui pour autant, évidemment, ont une vie spirituelle. C'est plus large que ça.
Nous espérons que ça aura été, que nous aurons aujourd'hui allumé l'étincelle et donné envie de lire Thérèse, car c'est une lecture roborative. Bonjour Elena.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors avoir la foi, c'est parfois avoir de l'espoir, croire en soi. Et pour cela, eh bien, il y a des personnes, des artistes merveilleux qui se baladent dans les couloirs des services de pédiatrie des hôpitaux pour redonner l'espoir aux enfants, pour les faire sourire, pour leur apporter une petite dose de bonne humeur. Ce sont les artistes, les clowns du Rire Médecin, une association qui va fêter ses 20 ans cette année. Et on en parle des bienfaits du rire sur Europe 1 avec les experts. N'hésitez pas à poser vos questions 39,21, c'est 34 centimes la minute.
Au 39,21, merci beaucoup Elena. Si, c'est bien ça.
Oui, 34 centimes d'euros la minute.
Et demain, moi je ne serai pas dans le studio, mais nous serons là, bien entendu, puisque ce sera le Nouvel An russe. Demain, et nous serons à l'église, enfin à la cathédrale russe de Paris.
Dans le 8e arrondissement.
La cathédrale de Saint-Alexandre Nevski. À demain,
Julien. À demain, Franck, et merci à tous de votre confiance à Europe 1.